Les mystères du Palais Royal, deuxième partie. Chapitre 19. Marché de dupes. Il était à peu près 10 heures du matin quand un joyeux rayon de soleil vint éveiller le chevalier de la Tremblay. Le jeune homme, arraché brusquement aux illusions séduisantes du beau songe qui le berçait, sauta en bas de son lit et regarda autour de lui avec une certaine inquiétude. Rien d'ailleurs ne justifiait cette inquiétude. Tout était à la même place que la veille au soir. Aucune main indiscrète n'avait effleuré sa cassette. Les verrous de la porte n'avaient point bougé. Raoul compta son or, il n'y manquait pas un seul louis. Ainsi rassuré, le jeune homme se souvint de son rêve, et il se dit que cette vision mythologique était le présage certain d'une heureuse réalité. Sans aucun doute, il épouserait Émeraude, la charmante nièce de Nicolas Benoît, et cette alliance, en lui assurant l'héritage du riche marchand, le mettrait à même de puiser dans les ondes intarissables du fleuve d'or. Raoul, fort égayé par cette perspective séduisante, fit sa toilette avec un soin extrême, appela Jacques et se fit servir à déjeuner. Quelques minutes avant midi, Nicolas Benoît se présentait à l'hôtel de la Toison d'Or, ainsi que la veille, il en avait prévenu Raoul. « Eh bien ?» lui demanda ce dernier après lui avoir serré cordialement la main. « Avez-vous vu le major Tancrède ?»« Non, mais j'ai reçu de lui tout à l'heure un petit billet. »« Que vous dit-il ? » ?»« Il m'annonce qu'il a d'excellentes nouvelles à m'apprendre, et il me prévient qu'il sera rue Grenota à 2 heures. »«
D'excellentes nouvelles ?» répéta le chevalier. « Qu'est-ce que cela peut être ?»«
Pardieu, c'est bien facile à comprendre. Il aura rencontré le baron Hector de Cardaillac, et votre affaire est sans doute conclue. »
« Dieu le veuille !» murmura Raoul.
« Du reste, poursuivit Nicolas Benoît, nous saurons bien vite à quoi nous en tenir, car, je vous le répète, à 2 heures, le major sera chez moi. » Après ces quelques mots échangés, Jacques fut installé de nouveau dans la chambre de son maître, et les deux hommes se dirigèrent pédestrement vers la rue Grenota. Ils y trouvèrent Émeraude, plus fraîche et plus jolie, si faire se pouvait, que la veille.
Nicolas Benoît prit un prétexte pour laisser sa nièce et le chevalier en tête-à-tête pendant quelques instants, et Raoul, aussi véritablement amoureux qu'on peut le devenir à son âge et en 24 heures, murmura aux oreilles de la jeune fille une déclaration passionnée, laquelle fut écoutée avec une émotion qui n'était pas absolument de commande. Oh, si en ce moment Émeraude avait été libre de son cœur et de sa personne, comme elle aurait obéi joyeusement à cette attraction sympathique qui la poussait vers ce gentilhomme si jeune et si charmant. Comme elle l'aurait aimé et comme elle le lui aurait dit. Mais Émeraude n'était point libre. La malheureuse fille avait abdiqué le droit de vouloir et le droit d'agir. Elle était l'un des anneaux d'une chaîne, l'un des rouages d'une machine. Et elle savait bien que si elle essayait seulement une résistance impossible, elle serait aussitôt brisée. Le sentiment de cette dépendance si complète et si dure se présenta à elle pour la première fois dans toute son amertume et lui serra douloureusement le cœur. Une ou deux larmes, perles liquides, se suspendirent à ses cils de velours et roulèrent sur ses joues satinées. Raoul expliqua ses larmes par la fiévreuse émotion que son tendre aveu causait à la jeune fille. Il ne douta plus qu'il fût aimé et son bonheur en redoubla. Nicolas Benoît rentra sur ses entrefaites. Un seul coup d'œil lui suffit pour comprendre ce qui s'était passé pendant son absence. Il vint à Raoul et il lui dit avec une expression de tendresse infinie et d'onction toute paternelle. « Faites-vous d'abord une position, mon enfant. Et ensuite, dame, ensuite, peut-être bien que vos désirs seront aussi les miens. » Raoul eut envie de se jeter au cou de ce digne et excellent homme et de le presser dans ses bras. Et sans doute allait-il le faire, mais l'entrée du major Tancrède d'Estagnac coupa court à cette démonstration chaleureuse.
« Eh bien ?» demanda vivement Nicolas Benoît au nouveau venu.
« Eh bien ?» répondit ce dernier. « Je ne m'étais point trompé. »«
En quoi ?»«
En cela que le baron de Cardaillac a fini avant-hier de dévorer sa tante. »«
Il est ruiné ?»«
De pied en cap. »« Et il croit toujours à sa martingale infaillible ?»«
Parbleu, plus que jamais !»
Alors, il consentirait à se défaire de sa compagnie? Au moment où je lui en ai parlé, l'affaire était aux 3/4 conclue avec un autre.
« Ah, mon Dieu !» s'écria Raoul.
« Rassurez-vous, répondit le major, j'ai surenchéri de quelques louis, et comme je suis un camarade du baron, nous l'emportons sur notre concurrent. »
Raoul fit un bond de joie.
« Ainsi, demanda Nicolas Benoît, c'est conclu ?
J'ai donné parole pour notre jeune ami. »
« À quel prix ?
50 000 livres.
Notre concurrent en offrait 48.
Quand pourrons-nous terminer ?
Dit le chevalier.
« Quand vous voudrez. J'ai là le brevet et un sous-signe que vous n'aurez qu'à signer. »«
Je cours chercher l'argent, » s'écria le jeune homme.
« Un instant, » fit Nicolas Benoît. Puis il ajouta en s'adressant au major. « N'êtes-vous pas d'avis qu'il serait bon, avant de laisser notre cher Raoul donner son argent, de faire approuver et signer au régent l'acte de cession de cette compagnie ?»«
Oui, sans doute, » répondit Tancrède.
« Encore des retards ?» murmura Raoul.
« Aucun, si du moins le régent est à Paris. Savez-vous s'il y est, mon cher major ?»«
Oui, il ne quitte point le palais royal. » »«
Alors, poursuivit Benoît, ce soir, tout sera fini. Je crois vous avoir dit que le vicomte Roland de Silvera était fort bien en cours. Je vais l'aller trouver et lui remettre ses paperasses. Il ira voir monseigneur à l'instant même. Et vous pourrez payer ce soir sans nul inconvénient. Ce qui vous sera fort agréable, j'imagine. » « Car vous devez dormir assez mal auprès de votre valise bourrée d'or. »«
Que ne vous devrais-je point ?» fit Raoul.
« Vous me devrez les 10 000 livres que je vais ajouter à vos 40 000, » répondit Nicolas Benoît en riant. « Et je vous assure que vous ne trouverez point en moi un créancier bien difficile. »«
Je cours chez le vicomte. »«
Vous m'attendez ici, n'est-ce pas ?»«
Puisque vous me le permettez, » balbutia le jeune homme, que l'idée d'un nouveau tête-à-tête avec Émeraude mettait hors de lui-même.
Cet espoir fut déçu. Nicolas Benoît sortit en effet, mais le major Tancrède tint compagnie aux deux jeunes gens. Le pauvre oiseau était trop complètement englué pour qu'il lui fût possible désormais de tenter seulement la fuite. Les moyens de séduction employés jusque-là devenaient donc inutiles. Et d'autre part, il était sage d'empêcher Émeraude de tout compromettre par quelqu'une de ces inconséquences qui sont si naturelles aux filles d'Ève. Raoul aurait préféré un duo, et de beaucoup. Mais il fut bien forcé de faire de nécessité vertu et de se contenter d'un trio. L'absence de Nicolas Benoît fut longue. Il ne revint guère que vers les 6 heures du soir, et il revint en voiture. « Le régent a signé !» Tel fut son premier mot. Puis il montra à Raoul un parchemin scellé du grand sceau aux armes de France et sur lequel se trouvait apposée la signature de Monseigneur Philippe d'Orléans. « La compagnie vous appartient, mon cher enfant, » dit-il ensuite. « Seulement, il s'agit de la payer, et de la payer ce soir même. »«
Je suis prêt, » répondit Raoul.
« J'ai à la porte une voiture, » continua Benoît.
« Allons chez vous. Nous y prendrons votre argent. Nous reviendrons dîner ici, et ensuite, le major et moi, nous porterons les 50 000 livres à ce pauvre fou qu'on nomme le baron de Cardaillac, et qui n'en fera qu'une bouchée. »
Raoul ne pouvait que souscrire à cet arrangement. Il monta en voiture avec ses deux protecteurs et tous trois arrivèrent à l'hôtellerie de la Toison d'Or. Sur l'ordre de son maître, Jacques ouvrit la porte et sa figure peignit une joie vive quand il apprit que sa consigne allait cesser et qu'il serait déchargé désormais de toute responsabilité. Raoul déboucha les premières courroies de la valise afin d'en retirer les bijoux qui lui venaient du marquis Réginald. Mais il se ravisa aussitôt. « Rendez-moi un service de plus !» dit-il à Nicolas Benoît.
« Lequel ?
Chargez-vous de garder chez vous ces quelques bijoux jusqu'à ce que je vous les redemande. »
« Bien volontiers, » fit Monsieur Benoît.
« Ils seront parfaitement en sûreté dans ma caisse. »«
Beaucoup plus que dans mes mains, » répondit le jeune homme avec un sourire. Ce qui fut dit fut fait. La valise fut portée dans la voiture et les trois hommes reprirent le chemin de la rue Grenotat.
Chapitre 20 Les largesses de Monsieur Benoît. En arrivant au magasin du Bélier d'argent, Raoul, Nicolas Benoît et Tancrède d'Essagnac trouvèrent le vicomte de Silvera qui venait d'arriver et qui les attendait en compagnie d'Émeraude. Monsieur de la Tremblay remercia avec effusion cet aimable gentilhomme de l'embarras qu'il avait bien voulu se donner pour assurer la réussite de l'importante affaire dont nous avons mis tous les détails sous les yeux de nos lecteurs. Le vicomte répondit courtoisement qu'il s'estimait heureux d'avoir pu trouver l'occasion de se rendre utile à Raoul. Ensuite, on se mit à table. Le repas ne fut point animé comme celui de la veille. Un inexplicable embarras semblait régner entre les convives et glacer leur gaieté. Raoul, tout en se répétant qu'il était au comble de ses vœux et que le bonheur qui lui arrivait était inespéré, ne se sentait cependant pas joyeux. Une insurmontable tristesse dominait ses pensées et assombrissait son esprit. Émeraude semblait très souffrante. À peine répondait-elle par monosyllabes aux paroles qu'on lui adressait. Le reste du temps, elle se renfermait dans un morne silence. Elle ne mangeait pas et ne buvait guère. Parfois, elle regardait Raoul à la dérobée, et alors ses grands yeux se voilaient de larmes qu'elle essuyait furtivement. Pauvre Émeraude! Créature perdue s'il s'en fut, enfant de la bohème de Paris, complice de voleurs, fille plus que galante. Il restait cependant dans son cœur un petit coin qui n'était pas tout à fait corrompu. Et dans ce petit coin avaient germé deux fleurs célestes, beaucoup de pitié et un peu d'amour. Monsieur Benoît était en proie à une évidente préoccupation. L'attitude de la jeune fille paraissait le contrarier vivement. Il lui lançait des coups d'œil menaçants, qu'elle ne voyait pas, ou qui lui faisaient hausser les épaules quand par hasard elle les remarquait. Tancrède d'Estagnac, silencieux contre sa coutume, s'absorbait tout entier dans la dégustation d'un perdreau truffé et d'une bouteille de vin de Chambertin, pour lesquels il semblait professer un culte véritable. Seul, entre tous les convives, le vicomte de Silvera avait conservé sa brillante gaieté et son esprit communicatif. Il s'efforçait, mais vainement, de faire partager à ses compagnons son entrain et sa bonne humeur. De guerre lasse, il y renonça, et il se tut comme les autres. Enfin, le dîner s'acheva. Monsieur Benoît consulta sa montre. 9 heures, dit-il en regardant le major Tancrède. Le baron de Cardillac nous attend chez lui, répondit Monsieur d'Estagnac. Ne le faisons point attendre. Vous avez conservé la voiture, n'est-ce pas? Sans doute. Elle est à la porte. C'est au mieux. Avant 1 heure, nous serons de retour. Nicolas Benoît ouvrit la valise. Il en retira les bijoux de Raoul, qui se trouvèrent enfermés dans un petit sac de peau d'Espagne, et il les mit dans une espèce de coffre-fort placé à l'un des angles de la pièce. Ensuite, il tira de sa poche un portefeuille qui semblait gonflé de billets de caisse, et il le montra à Raoul en lui disant « Là-dedans sont les 10 000 francs qui complètent la somme que vous devez à Monsieur de Cardaillac. Nous allons vous rapporter son reçu. » Puis, sans attendre les remerciements de Raoul, M. Benoît prit la valise par l'une de ses poignées et, accompagné du major d'Estagnac, il la porta jusqu'à la voiture dans laquelle montèrent les 2 hommes et qui s'éloigna rapidement. Aussitôt que le bruit des roues eut cessé de se faire entendre sur le pavé boueux de la rue Grenotat, la jeune fille se mit à pleurer amèrement. « Mon Dieu !» s'écria Raoul. « Qu'avez-vous ?» Émeraude ne répondit pas. « Qu'avez-vous? Qu'avez-vous donc ?» répéta le jeune homme d'une voix passionnée et suppliante. « Je n'ai rien, » murmura la jeune fille. « Je souffre, j'étouffe. Je vous en conjure, monsieur, ne vous occupez pas de moi. » Raoul allait insister, mais le vicomte s'empara de lui et détourna forcément son attention jusqu'au moment où revinrent monsieur Benoît et le major Tancrède. Émeraude avait essuyé ses larmes et elle semblait calme, sinon tout à fait consolée. « Mon cher enfant, » dit Nicolas Benoît à Raoul en lui présentant un papier que le chevalier ne déplia même point. « Voici le reçu du baron de Cardaillac. Tout est terminé. La compagnie de Royal Champagne est à vous. Nous allons déboucher un flacon de vin d'Épernay et le vider joyeusement à la santé de vos épaulettes. » La mousse écumante ruisselait dans les verres et le nouvel officier fit raison au toast que venait de porter son hôte. Recevez mes compliments bien sincères, mon cher chevalier, dit le vicomte en pressant la main de Raoul. Recevez aussi les miens, mon cher camarade, fit le major Tancrède à son tour. Le régiment de Royal Champagne compte à 7 heures un charmant officier de plus. Merci, messieurs, merci, mes amis, mes bons amis, répondit Raoul en rendant à droite et à gauche les poignées de main qu'il venait de recevoir. Jamais, non jamais je n'oublierai tout ce que vous avez voulu faire. « Tout ce que vous avez fait pour moi. »« Quand rejoindrez-vous le régiment ?» demanda Tancrède. « Aussitôt que ce sera possible. »« Vous savez que je me charge de votre équipement, » fit Nicolas Benoît. Le major poursuivit. «
je ferai avec vous le voyage de Valenciennes. Je veux avoir le plaisir de vous présenter moi-même à nos collègues du corps d'officiers. »
Raoul remercia de nouveau et il accepta cette offre si gracieuse.
L'heure de se séparer arriva. Raoul allait prendre congé de ses hôtes. En ce moment, Émeraude s'approcha de Nicolas Benoît. Elle le prit par le bras et l'entraîna dans un coin de la chambre. Là, elle lui parla tout bas pendant un instant. Nicolas Benoît fronça le sourcil. Émeraude poursuivit. La figure de l'oncle prétendu se rembrunissait de plus en plus. Enfin, il répondit à Émeraude. Sans doute, cette réponse ne fut pas conforme au désir ou plutôt aux volontés de la jeune fille, car ses charmants sourcils se contractèrent à leur tour. Un éclair étincela dans ses yeux et elle frappa du pied avec impatience et même avec colère. Puis, le colloque continua et dura une minute encore. Enfin, Benoît parut céder, quoique à contre-cœur. Il haussa les épaules et ne dit plus rien. La jeune fille revint s'asseoir à la place qu'elle avait occupée jusqu'à ce moment. Nicolas Benoît parla au vicomte et au major de deux ou trois choses tout à fait indifférentes qui n'avaient d'autre but que de servir de transition. Ensuite, il prit Raoul par le bras, ainsi que lui-même avait été pris par Émeraude, et il l'emmena un peu à l'écart. « En vérité, mon cher enfant, lui dit-il à mi-voix, je suis un vieil étourdi.
« Pourquoi donc ? » demanda le jeune homme.
« Les choses les plus simples me sortent de l'esprit. Je crois que je perds la tête. »
En face de ce préambule, les yeux de Raoul exprimèrent l'étonnement le plus complet. Monsieur Benoît continua.
« Vous m'avez donné votre argent ce soir. »«
Oui ? Tout votre argent ? » ?»«
Sans doute. » »«
De telle sorte qu'il ne vous en reste plus. » »«
Tiens, fit Raoul, c'est ma foi vrai. » »«
Ainsi, vous êtes complètement à sec. »
« Je possède un louis et quelques monnaies, » répondit le jeune homme en se fouillant.
« Ce n'est pas assez, même pour attendre. Considérez-moi, je vous prie, comme votre banquier, et puisez librement dans ma caisse. Les 10 000 francs que j'ai payés pour vous ce soir l'ont un peu dégarni. Mais après-demain, la brèche sera réparée. Prenez toujours ces 25 louis. Dans 3 jours, je vous porterai quelques milliers d'écus. »
Raoul repoussa doucement la main de Benoît qui se tendait vers lui pleine d'or.
« Non, dit-il, je n'accepte pas. »«
Pourquoi donc ? » demanda le marchand.
« Parce que c'est trop, beaucoup trop. Un père ne ferait pas pour son fils ce que vous faites pour moi. »«
Quelle plaisanterie ! Allez, ouvrez les doigts et prenez cette bagatelle. »«
Non, répéta Raoul.
Je le veux.
Je ne puis.
Je vous en prie.
N'insistez pas. »«
Méchant enfant, s'écria Benoît d'un ton pénétré.
Vous allez me faire de la peine. »
« À moi et à une autre personne. »
Et du coin de l'œil, le faux marchand désignait Émeraude, qui, de l'endroit où elle était placée, n'avait pas perdu un seul des détails de cette petite scène.
« Et maintenant, poursuivit Benoît, je vous défie de dire encore non. »
En effet, Raoul était vaincu. Il tendit la main en répondant
« Puisque vous le voulez, puisqu'il le faut, j'accepte. »
« À la bonne heure, s'écria Benoît.
« Je vous retrouve, mon enfant, et voilà comme je vous aime. »
Les adieux furent échangés. Raoul regagna son hôtel en portant l'argent que Benoît venait de lui donner, plus le parchemin par lequel Philippe d'Orléans, régent de France, le mettait à la tête d'une compagnie au régiment de Royal Champagne, plus un reçu de 50 000 livres signé du baron Hector de Cardaillac. Toute cette fortune représentait un capital de 26 louis en or et de 2 écus de 3 livres. Chapitre 21. Voler. Cette nuit-là, Raoul dormit d'un tranquille sommeil qu'aucun songe ne vint visiter. La certitude d'avoir fait de sa petite fortune un bon et utile emploi avait déchargé son esprit d'un fardeau pesant. Désormais, il se trouvait possesseur d'une position dans le monde, d'une position sérieuse et honorable. L'avenir lui appartenait. Il était sûr de vivre. Le lendemain, il s'éveilla de bonne heure. Il donna un louis à Jacques en lui permettant de disposer de son temps comme il l'entendrait pour toute la journée. On devine que le jeune garçon se sentit bien heureux de cette permission, lui qui, depuis 3 jours qu'il était arrivé à Paris, n'avait encore vu que la cour étroite, les cuisines et les chambres garnies de l'hôtellerie de la Toison d'Or.
Il serra joyeusement son louis dans sa poche et se mit en route à l'instant même. Raoul ne tarda guère à en faire autant de son côté. Sa première pensée, son premier mouvement, furent de se rendre au magasin de la rue Grenota. Émeraude, la veille au soir, lui avait semblé triste et souffrante, et il lui paraissait naturel et convenable d'aller s'informer de ses nouvelles. Cette raison de convenance n'était à vrai dire qu'un prétexte que donnait Raoul au secret désir de son cœur. Car nous le répétons, le jeune homme aimait Émeraude. Ou plutôt, il prenait pour de l'amour la vive admiration qu'il avait ressentie à son aspect. Le trajet de la rue de Paradis-Poissonnière à la rue Grenota ne fut pas bien long. Une fois arrivé, M. de la Tremblay chercha des yeux l'enseigne du Bélier d'argent et n'eut point de peine à la découvrir. Aussi s'avançait-il d'un pas leste et assuré jusqu'à la porte du magasin. Là, une surprise assez désagréable l'attendait. Cette porte était fermée. Raoul frappa. Personne ne vint ouvrir. « Tout le monde est sorti, se dit-il. Ce n'est cependant aujourd'hui, ni dimanche, ni jour de fête. Enfin, je reviendrai un peu plus tard. » Et le jeune homme alla promener à travers la rue Saint-Denis son désappointement et son ennui. Pendant cette promenade, il vit passer auprès de lui de jolis visages de grisettes. À plus d'une reprise, il fut frappé de l'agréable tournure des petites marchandes du quartier. Mais l'image d'Émeraude tenait trop de place dans son cœur pour qu'il fût longtemps accessible à des distractions de ce genre. Bourgeoise et grisette n'obtinrent de lui qu'un coup d'œil distrait, et il ne se retourna même point pour les suivre du regard. Au bout d'une heure ainsi employée, il revint à la rue Grenota. La porte du Bélier d'argent était fermée plus que jamais. Le jeune homme frappa de nouveau. Comme la première fois, aucun bruit intérieur ne répondit à son appel. Seulement un mercier, debout sur le seuil de sa boutique, de l'autre côté de la rue, se mit à rire assez bruyamment. Raoul se retourna, et ne supposant point qu'il pût être la cause de l'hilarité de ce quidam, il s'avança vers lui pour le questionner. En voyant s'approcher ce grand et beau jeune homme, le mercier reprit immédiatement son sérieux. « Pardon, monsieur, lui dit Raoul, mais seriez-vous assez obligeant pour répondre à une question que je souhaite vous adresser ?»« Monsieur, répliqua le marchand, j'y répondrai de tout mon cœur. » « Est-ce donc l'habitude de ce magasin de fermer ainsi, sans motif, au beau milieu de la journée ?»« Quel magasin ?»« Celui-là !» Et Raoul désignait le Bélier d'argent. « Ha 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 !» fit le mercier. « Eh bien, il m'est impossible de vous renseigner à ce propos. »«
Pourquoi donc ?»«
Parce que vous m'interrogez au sujet d'une chose que j'ignore moi-même. »« Il n'y a pas longtemps peut-être que vous habitez ce quartier et que vous demeurez dans cette rue. » Il y aura 30 ans bientôt. Mais alors, comment se fait-il? Que je ne sache point ce que vous me demandez, n'est-ce pas?
Justement.
C'est bien simple. Ce n'est pas moi qui suis nouveau dans le quartier. C'est ce magasin.
Le Bélier d'argent?
Lui-même.
Présentez-vous, monsieur.
Pas le moins du monde.
Quoi?
Le Bélier d'argent ne compte pas 300 ans d'existence?
Le marchand se mit à rire.
« Quoi ?» poursuivit Raoul, partagé entre l'épouvante et l'incrédulité. « Vous ne connaissez point Nicolas Benoît ?»«
Il y a 3 jours que j'ai vu son nom pour la première fois. »«
Où ?»«
Sur cette enseigne. »«
À qui donc appartenait le Bélier d'argent ?»«
À personne. »«
Que dites-vous là ?»«
Je dis que ce magasin n'appartenait à personne, puisque ce magasin n'existait pas. »
Il semble à Raoul qu'une maison s'écroulait sur sa tête, et il en demeura pendant un instant comme étourdi.
« Monsieur, s'écria-t-il ensuite, au nom du ciel, expliquez-vous mieux. Je tremble de vous comprendre, car si vos paroles ont bien en réalité le sens qu'elles semblent avoir, alors j'ai donné tête baissée dans les filets d'un misérable. Alors je suis perdu. »
« Monsieur, répondit le marchand touché de la décomposition soudaine des traits de Raoul et de l'altération de sa voix, je vais vous dire tout ce que je sais. Je vous le demande avec instance. Malheureusement, c'est bien peu de choses. Il y a 3 jours, des ouvriers sont venus et ont posé au-dessus de cette porte l'enseigne qui y est et sur laquelle ils ont tracé l'image et les noms que vous voyez. Le même soir est arrivée une voiture remplie de ballots qu'on a déchargés et qui doivent être encore dans le magasin.
car je n'ai vu emporter rien de bien volumineux. Pendant 3 jours, il s'est fait un certain mouvement d'aller et de venue, et des voitures et des chaises à porteurs s'arrêtaient assez fréquemment devant le magasin. Ce matin, personne n'a paru. Je ne puis vous en dire davantage, car voilà tout ce que je sais.
« Merci, monsieur, » murmura Raoul, qui ne doutait presque plus de son malheur.
« Vous ne feriez pas mal de vous renseigner auprès du propriétaire de la maison, » poursuivit le marchand. « Peut-être en tireriez-vous quelques éclaircissements utiles. »
« Vous avez raison, monsieur.
Voici son nom et son adresse. Pierre Chauvet, rue du Renard Saint-Sauveur, numéro 21.
« Je vous remercie 1000 fois, » dit Raoul de nouveau, « et je vais profiter de votre bon conseil. »
Et le jeune homme se rendit en toute hâte à l'adresse indiquée. Pierre Chauvet, auquel il s'adressa, lui répondit que 4 jours auparavant, un petit vieillard d'assez bonne mine, disant s'appeler Nicolas Benoît, était venu louer le magasin de rez-de-chaussée de la maison de la rue Grenotat et avait, comme c'était l'usage, payé 6 mois de loyer d'avance. Il n'en savait pas plus long. Les tristes suppositions du jeune homme devenaient désormais des certitudes. L'évidence se montrait lumineuse et irrécusable. Le pauvre Raoul était tombé dans l'infernal traquenard que des filous adroits avaient tendu au premier pas de son inexpérience. Mais si habiles que fussent les fripons qu'il avait dupés, peut-être y avait-il un moyen de retrouver leurs traces, de leur faire rendre gorge. Raoul se cramponna à ce dernier espoir et courut chez le lieutenant de police. Il s'écoula 24 heures avant qu'il fût possible d'obtenir une audience. Enfin, il fut introduit en présence du haut personnage chargé de faire respecter dans la grande ville la probité et les bonnes mœurs. Raoul se nomma et raconta sa mésaventure dans tous ses détails. Ce récit fit à maintes reprises sourire le lieutenant de police.
« Monsieur le chevalier, » dit-il ensuite à notre héros, « vous avez eu affaire à des coquins du premier mérite. C'est une satisfaction. Si vos intérêts pécuniaires sont compromis, au moins votre amour-propre n'a point trop à souffrir. Il n'y a nulle honte à être pris pour dupe quand les dupeurs sont de cette force. » Cette consolation ne parut point à Raoul excessivement consolante. Il interrogea le lieutenant de police sur la possibilité plus ou moins grande de rentrer dans son argent. Le magistrat sourit de nouveau et hocha la tête d'un air de doute qui fit frémir le jeune homme. « Vous comprenez bien, monsieur le chevalier, » reprit-il, « que des gens qui inventent et qui jouent une comédie semblable à celle dans laquelle ils vous ont, à votre insu, donné un rôle, ne seront guère embarrassés pour en imaginer une nouvelle qui dépistera mes limiers. Cependant, la police est habile. Comptez sur nous. Nous ferons pour le mieux. » Ensuite, il fit accompagner Raoul par un de ses huissiers, qui le mit en rapport avec l'agent chargé des plus difficiles opérations de ce genre, et que sa merveilleuse perspicacité avait depuis longtemps fait surnommer « l'œil de lynx » par ses collègues et par les voleurs. Raoul dut recommencer son récit. L'agent hocha la tête après l'avoir écouté, ainsi que l'avait fait le lieutenant de police un instant auparavant. « Diable ! Diable ! » dit-il entre ses dents. Puis il se fit donner le signalement très exact et très détaillé de Nicolas Benoît, du vicomte Roland de Silvera, du major Tancrède d'Estagnac et enfin de la charmante Émeraude. Il prit des notes sur tout cela et il promit à Raoul qu'il allait lancer à l'instant même sa brigade dans toutes les directions. « Mais, ajouta-t-il, j'ai bien peur que nous n'arrivions point à un résultat satisfaisant. À l'heure qu'il est, les signalements que vous venez de nous donner ne signifient plus rien sans doute. Tous ces gens-là, soyez-en sûrs, ont si bien changé de physique et d'allure que vous passeriez à côté d'eux sans les reconnaître. Ajoutez à cela qu'ils ont 2 domiciles et 25 ou 30 noms de rechange, et vous conviendrez avec moi que l'entreprise que nous tentons n'est pas des plus faciles. « Enfin, » dit-il en achevant comme avait dit son maître, « comptez sur nous, nous ferons pour le mieux. » Quand Raoul sortit de l'hôtel du lieutenant de police, il ne comptait plus sur personne.